Chapitre 7. L'empereur déchu. Nous avions besoin d'oubli tous les deux, de gîtes, d'étapes, avant d'aller porter plus loin nos bagages de néant. Deux êtres en déroute qui s'épaulent de leur solitude. Romain Gary. Paris, 8e arrondissement. 1h du matin. Un appartement d'un petit immeuble du faubourg du Roule. Un mélange de pluie et de neige tombait sur les toits de la capitale. À la lumière d'une veilleuse, bien au chaud sous sa couette, Madeleine terminait les dernières pages des Confessions d'un cuisinier amoureux, le livre de Jonathan l'Empereur que Takumi lui avait acheté le matin même. Couché à ses côtés, Raphaël dormait depuis 2 heures. Lorsqu'il l'avait rejointe au lit, il avait bien espéré que sa future épouse écourte sa lecture devant la perspective d'un câlin. Mais Madeleine était scotchée par l'ouvrage. Et à trop attendre, Raphaël avait fini par s'endormir. Madeleine adorait lire dans le silence de la nuit. Même si l'appartement de Raphaël était situé près des Champs-Élysées, c'était un havre de paix, préservé des sirènes de police et autres cris de fêtards. Elle avait dévoré la prose de Jonathan avec un mélange de fascination et de répulsion. Le livre datait de 2005. L'empereur vivait alors son âge d'or, comme en témoignait la 4e de couverture qui recensait les critiques enthousiastes et unanimes dont il bénéficiait à l'époque. Magicien des saveurs, Mozart de la gastronomie, chef le plus doué du monde. Au cours de ses entretiens, l'empereur martelait son credo. La création culinaire est un art à part entière, au même titre que la peinture ou la littérature. Pour lui, la gastronomie ne s'arrêtait pas à la satisfaction des papilles, mais intégrait une dimension artistique. Plus que cuisinier, il se définissait comme créateur, comparant son travail à celui de l'écrivain devant sa page blanche, et affirmait ainsi pratiquer une cuisine d'auteur. Au-delà du simple travail artisanal, je veux que ma cuisine raconte des histoires et provoque des émotions, déclarait-il. Dans cette optique, il remontait aux sources de sa création pour identifier les racines de son art. Comment se formaient ses intuitions? Par quel processus combinait-il tel goût avec tel autre pour obtenir une saveur inconnue? Quel rôle jouait la texture du plat ainsi que son aspect esthétique? « Je suis curieux de tout », avouait-il. « J'alimente ma créativité en visitant des musées, des expositions de peinture, en écoutant de la musique, en voyant des films et en contemplant des paysages. Mais ma première source d'inspiration, c'est ma femme, Francesca. Je ferme mon restaurant pendant 3 mois pour me réfugier dans mon atelier de Californie. J'ai besoin de ce laps de temps pour me régénérer et mettre au point les nouvelles recettes que je proposerai à l'Impérator l'année suivante. » Madeleine avait été surprise par le nombre de chapitres consacrés aux fleurs. Jonathan s'en servait abondamment dans sa cuisine, articulant une partie de ses recettes autour de leur saveur. Boutons de capucine confits, bouchées croustillantes de foie gras à la confiture de rose, cuisses de grenouille caramélisées à la violette, sorbet au mimosa et meringue au lilas, bonbons glacés au coquelicot de Nemours. Madeleine sentit son ventre qui gargouillait. Toute cette lecture lui avait donné faim. Sans faire de bruit, elle se glissa hors du lit et s'entortilla dans une couverture avant de rejoindre la cuisine américaine qui donnait sur les toits. Elle mit la théière sur le feu et ouvrit le frigo à la recherche de quelque chose à grignoter. Pas grand-chose. Fouillant dans les placards, elle dégota tout de même un paquet entamé de granola. En attendant que l'eau frémisse, elle croqua dans un biscuit et parcourut les annexes des Confessions d'un cuisinier amoureux où étaient notamment imprimées certaines des recettes qui avaient fait la réputation du restaurant new-yorkais de l'empereur. Du temps où Jonathan était au fourneau, l'impérator proposait chaque soir un voyage gustatif organisé autour d'une 20aine de plats à savourer en portions réduites, selon un ordre précis digne d'un scénario de film, ménageant surprise et rebondissement. En consultant le menu, Madeleine ne put s'empêcher de saliver. Acte 1. Gratin de queue d'écrevisse au caviar. croquant de bacon et de parmesan. Œufs brouillés aux oursins et à la nougatine. Beignets de fleurs d'acacia à la guimauve. Fèvettes sautées à l'ail dans leur chapelure de pain d'épices. Véritable pissaladière nissarde. Acte 2. Saint-Jacques poêlé aux macarons et leur risotto aux amandes. Risotto aux truffes et son émulsion au chocolat blanc. Jarret de veau du Pays Basque confit au jasmin. Duo de carrés et noisettes d'agneau de lait au miel et au thym. Acte 3. Glace aux marshmallows grillés au feu de bois. Ananas aux pétales de magnolia. Fraise à la fleur de capucine dorée à la feuille d'or. Meringue au lilas sur sa mousse de lait à l'huile d'olive et au miel. Tuile de banane au cacao et son riz au lait à la fleur de sureau. Cuillère caramélisée de mousse de coco. Bonbons glacés à la barbe à papa. Sa tasse de thé à la main, Madeleine s'installa devant l'écran de son ordinateur portable. À travers la vitre, elle regarda les flocons moutonneux qui se désagrégeaient en tombant sur les toits. Un peu malgré elle, la jeune femme éprouvait une fascination de plus en plus forte pour l'empereur et pour le mystère qui entourait son brusque retrait de la scène gastronomique. Pourquoi un homme encore jeune, en pleine gloire et au sommet de son art, choisit-il du jour au lendemain de saborder sa carrière? Sur Google, elle tapa « Jonathan l'Empereur », suivi de la requête « Fermeture de son restaurant », puis lança la recherche. Pendant ce temps, à San Francisco. 4h de l'après-midi. Jonathan envoya le dernier dessert du jour, une simple tarte aux abricots et au romarin, avant de dénouer son tablier et de se laver les mains. « Service terminé !» pensa-t-il en quittant sa cuisine. En salle, il salua un client et passa derrière le comptoir pour préparer deux expressos, un pour son commis, l'autre pour lui. Il attrapa les tasses, vérifia leur température pour être certain que la déperdition de chaleur soit minime et que l'arôme du café soit préservé. À North Beach, le quartier italien de la ville, on ne plaisantait pas avec ça. Pas question de louper un ristretto ou d'utiliser l'une de ces machines à capsules qui, de Shanghai à New York, uniformisait le goût du café sur toute la planète. Sa tasse à la main, il sortit sur la terrasse et s'assura que Charlie ne s'ennuyait pas trop. Sur sa tablette tactile, le gamin était plongé dans l'univers des dinosaures et ne prêta pas attention à son père lorsqu'il s'assit près de lui sous l'un des braseros. Il alluma discrètement une cigarette tout en regardant les passants et les enfants qui traversaient Washington Square. Il aimait cet endroit et son atmosphère particulière. Bien que la majorité de ses habitants soient aujourd'hui d'origine asiatique, le quartier était très attaché à son héritage italo-américain, comme en témoignaient les glaciers ambulants, les lampadaires saturés du drapeau vert-blanc-rouge et les nombreux restaurants familiaux où l'on dégustait pâte au pesto, panna cotta et tiramisu. Le lieu était mythique. Kerouac y avait vécu, Marilyn Monroe s'était mariée en son église et Francis Coppola, le réalisateur du Parrain, y avait toujours un restaurant et ses bureaux. Jonathan sortit de sa poche le téléphone de Madeleine. Toujours pas de message. Il lança l'application mystérieuse, bien décidé, cette fois, à contourner la barrière du mot de passe. Bon, il fallait procéder par ordre. On nous serinait constamment que la clé qui protégeait nos comptes était aussi importante que le code secret de notre carte bancaire. Soit. On nous rebattait les oreilles avec des conseils pour choisir un mot de passe vraiment sécurisé. Éviter les mots trop courts, ne pas utiliser d'informations connues de nos proches, choisir une alternance de lettres, de chiffres et de caractères spéciaux. On nous assurait que, dans cette optique, une formule invraisemblable composée d'une trentaine de caractères aléatoires serait un très bon mot de passe quasiment impossible à pirater. Sauf qu'il était aussi impossible à retenir. Jonathan avala d'un trait son ristretto. Il était convaincu qu'il fallait chercher quelque chose de simple. Dans nos vies modernes, on devait jongler avec toutes sortes de codes. Cartes de crédit, réseaux sociaux, comptes mail, administration. Pour accéder à n'importe quel service, on avait besoin d'un mot de passe. C'était trop pour notre mémoire. Alors, pour se simplifier la vie, la majorité des gens avaient tendance à choisir des codes courts et familiers, facilement mémorisables. Au mépris de toutes les règles de sécurité, leur choix se portait sur leur date de naissance, le prénom de leur femme ou de leur enfant, le nom de leur animal, un numéro de téléphone ou une suite de chiffres consécutifs ou de lettres adjacentes. Méthodiquement, Jonathan essaya 1, 2, 3, 4, 5, 6. A, B, C, D, E. Raphaël. Green. Ainsi que le numéro de portable de Madeleine. Échec. En fouillant dans l'historique des mails de la jeune femme, il trouva un message particulièrement intéressant. Le dossier de demande d'immatriculation envoyé par Madeleine au concessionnaire qui lui avait vendu sa moto. Il contenait, entre autres choses, la photocopie de sa carte d'identité. Connaissant ainsi sa date de naissance, Jonathan entra 21-03-1978. 21 mars 1978. 21-03-78. Puis, en anglais, 03-21-1978. March 21-1978. 03-21-78. Nouvel échec. Réfléchis, se lança-t-il tout haut. Comme l'adresse mail de Madeleine était maddygreen78@hotmail.com, il tenta maddygreen, puis maddygreen78. Échec. Jonathan sentit la colère et la frustration monter en lui. Il crispa son poing et soupira. C'était rageant de se trouver aux portes du secret et d'être incapable d'y accéder.